Radio Okapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Début aujourd'hui de la partie hors session de l'examen d'État. Ils sont au moins 1 079 000 candidats y prendre part à travers le pays. Nous parlerons dans ce journal de ce premier jour à Kinshasa, à Walikale et Masisi, au Nord Kivu, à Beni et Kindu, mais aussi de la situation des finalistes de Djougou et Mambasa en Ituri qui ne peuvent y prendre part en raison de l'insécurité. Résolution 2286 de l'ONU sur le soin de santé dans les conflits armés. 10 ans après, pas d'avancée significative. C'est ce que relève un communiqué conjoint du Comité international de la Croix-Rouge, de l'OMS et de Médecins sans frontières. Célébration hier 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème national « Façonner un avenir de paix ». Nous recevons dans ce journal Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'UNPC au Congo central. Il fait un état de lieu aussi, il nous parle de mesures pour lutter contre les moutons noirs dans cette province. Au moins 1 079 670 candidats, dont 44,7% des filles, sont inscrits aux épreuves hors session de l'examen d'État débuté aujourd'hui lundi à travers le pays. Ces épreuves se déroulent dans près de 3 270 centres répartis sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans certains pays limitrophes. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale assure que cette session est effectivement organisée dans les 60 provinces éducationnelles de la RDC. Elle remercie les autorités politico-administratives, les partenaires éducatifs ainsi que l'ensemble des intervenants pour leur engagement en faveur de la réussite de cette étape majeure du calendrier scolaire national. C'est un reportage signé Blaise Ndongala Mayanda.
C'est sous une pluie battante que les épreuves certificatives hors session ont été officiellement lancées dans l'enceinte du complexe scolaire Leloupio situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Comparativement à l'édition 2025, les effectifs des candidats connaissent une majoration significative traduisant la résilience du système éducatif national malgré les défis sécuritaires, économiques et sociaux. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale a salué le courage et la détermination des candidats, notamment ceux évoluant dans des zones affectées par des conflits et des crises humanitaires. Elle a également invité les candidats à faire preuve de calme, de sérénité, en s'abstenant de toute forme de fraude et tricherie. Raïssa Malouvou.
Abordez donc ces épreuves avec calme, avec confiance. L'examen d'État ne mesure pas seulement des connaissances, il consacre aussi une discipline, une maturité et un sens des responsabilités. Refusez toute forme de fraude, car la réussite n'a de valeur que si elle repose sur l'effort personnel, la préparation et l'honnêteté.
À l'instar de l'année précédente, le gouvernement congolais prend en charge les frais de participation des candidats des provinces du Nord et Sud-Kivu affectés par l'insécurité, garantissant ainsi l'équité d'accès à l'évaluation certificative sur toute l'étendue du territoire national.
En Ituri, environ 40% des finalistes du secondaire n'ont pas participé aux épreuves préliminaires de l'examen d'État dans le territoire de Djougou. Selon la société civile locale, cette situation est due à l'insécurité qui a entraîné le déplacement des milliers d'habitants. Même constat dans le territoire de Mambasa où le taux d'abandon n'est pas encore connu en raison de récentes attaques des ADF dans plusieurs localités. Des sources locales demandent au gouvernement de reporter ces épreuves pour les élèves concernés. Isaac Rémo.
À Boulé, où plus ou moins 80 000 personnes sont regroupées sur le site des déplacés de la plaine de Savo, les écoles sont fermées depuis 6 mois. En cause, les attaques répétées de la milice CRP, la Convention pour la Révolution populaire, ainsi que les opérations militaires en cours. Plus de 30 000 autres personnes ont fui depuis le mois de mars vers les sites de Djaïba, à Ala, dans les groupements Mbrobo, ainsi que dans les territoires voisins de Mahagi. La plupart des élèves touchés par ces conflits armés dans les territoires de Djougou ont été redéployés vers d'autres centres opérationnels, notamment à Fataki et à Bounia. Cependant, selon la société civile, environ 40% des élèves finalistes réfugiés dans des zones difficiles d'accès n'ont pas pu participer à ces épreuves. Gilles Touba. Des cas d'abandon scolaire sont également signalés dans les territoires de Mambasa à la suite des exactions des ADF dans plus de 15 localités. Directeur provincial de l'EPST Ituri 1 indique que le nombre exact d'élèves absents à ces épreuves n'est pas encore connu.
Au moins dans tous les centres, les examens ont commencé.
perdition, s'il y en a, c'est normal. Avec tout ce qu'il y a comme problème dans ce territoire-là, nous ne sommes encore en possession d'aucune statistique.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, plusieurs finalistes au secondaire débutent aujourd'hui ces épreuves dans un climat de forte tension sécuritaire. C'est principalement dans le territoire de Walikale, au sein de la province éducationnelle Nord Kivu 3. Selon des sources locales, certains élèves ont été pris dans des embuscades, tandis que d'autres auraient même été contraints par des hommes armés à transporter des effets militaires. DDT avec vous, Bernard Danyangi.
Plusieurs candidats à ces épreuves se retrouvent en situation de déplacés internes à la suite des affrontements survenus le week-end dernier dans le groupement Ziralo au sud Kivu, indiquent les sources locales. Selon ces sources, après la reprise de la localité de Tushunguti samedi par la FCM23, l'unique centre d'examen a été délocalisé à la dernière minute vers Biriko, à plus de 10 km en territoire de Walikale. Des élèves contraints de fuir avec leur famille passent ces épreuves sans abri, parfois sans assistance. Parmi ceux-ci, les candidats venus de Sake et de Goma dénoncent avoir été forcés à transporter des effets militaires entre Ngungu et Ziralo, une situation condamnée par des défenseurs locaux des droits humains. Par ailleurs, un autre groupe d'élèves a été attaqué samedi à Machumbi, dans le groupement de Lubérique. Dépouillés de leurs biens par des hommes armés non identifiés, ces candidats venus de Waloa Yungu entament leurs examens au centre de Kachébéré dans un profond traumatisme.
À Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, ces épreuves hors session ont été lancées ce matin par l'autorité urbaine. Les candidats saluent la prise en charge des frais de participation par le gouvernement, une décision qu'ils considèrent comme une véritable source de motivation. Reportage Marc Marofimbo.
Je suis venu vous encourager et vous souhaiter une bonne chance pour votre examen d'état hors session et je suis convaincu que vous allez faire de votre mieux pour le réussir à 100%.
Ces propos sont du maire de Beni, le colonel Jacob Nofondoté Kodal, lors du lancement officiel des épreuves hors session. Dans la ville de Beni, 18 centres accueillent 6360 candidats finalistes. Les épreuves ont débuté ce lundi par la dissertation. Autre source de motivation des candidats, la prise en charge des frais par le gouvernement, une mesure saluée par les candidats, comme l'explique ici Gisele Baraka Bokonga, l'un d'eux.
Je me suis préparé mentalement, j'ai confiance que non. Ce que je m'apprête à affronter, ce n'est pas du nouveau, ce sont des choses que j'ai quand même vues au courant de mon parcours scolaire et j'espère pouvoir être à la hauteur de gérer cela. Du fait que le gouvernement prend en charge nos frais de participation, c'est de nous alléger un peu la tâche. Vu que ça nous facilite vraiment, et je tiens vraiment à remercier ceux qui sont à la base de ces changements.
Ces épreuves hors session se déroulent pendant 5 jours sous la supervision des délégués nationaux venus de Kinshasa. A noter que la province éducationnelle Nord Kivu 2, couvrant la région de Beni, Butembo et Lubero, dispose désormais d'un centre d'escanage des items, une avancée qui devait accélérer la publication des résultats. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Bouclons cette page consacrée à l'examen d'état au Maniema. Ici, ces épreuves ont été lancées par le gouvernement de province à partir de l'Institut Lenano dans la commune de Kasuku à Kindu. Pour cette année, la province éducationnelle Maniema 1 aligne environ 16 650 candidats dans près de 6 530 filles regroupées dans 49 centres. Étant une étape majeure du calendrier scolaire, la dissertation marque non seulement le début des évaluations certificatives, mais aussi un moment décisif où chaque après non est appelé à démontrer ses capacités de réflexion, d'analyse et d'expression écrite. Un appel à la responsabilité au travail bien fait est lancé à tous les candidats pour espérer un résultat meilleur. Florence Kizalunga.
Devant un échantillon d'élèves réunis à l'Institut de l'Enano, en plus d'encouragement, le gouverneur promet des bourses aux meilleurs lauréats. Moussa Kabankoubi les invite à un travail bien fait.
En dehors de la récompense qui a été initiée par la première dame, Mama Denise Nyakeru, nous aussi au niveau de la province, nous venons d'instaurer une récompense pour les meilleurs lauréats de notre province. À partir de cette édition 2026, le gouvernement provincial va prendre en charge 17 lauréats. Nous vous souhaitons bonne chance. Il faut être vraiment attentif. Il faut honorer la province. Il faut honorer vos parents.
Promesse qui motive les candidats finalistes qui s'engagent à faire mieux.
Les paroles de monsieur le gouverneur nous fortifient vraiment, nous les finalistes. Et je suis sûr que et moi aussi je serai parmi les lauréats de l'édition 2026.
Je vais bien travailler pour que je puisse aussi mériter la bourse du gouvernement provincial.
Tous les intervenants ont été exhortés à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de transparence afin de garantir le bon déroulement de cette épreuve. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons à présent de ce communiqué publié conjointement aujourd'hui lundi à Genève par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale de la santé, OMS et Médecins sans frontières. Il y a 10 ans, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 2286 sur les soins de santé dans les conflits armés. La situation est encore pire qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un accomplissement, mais nous marquons un échec. Alors que la violence affectant les établissements médicaux, les transports et le personnel se poursuit sans relâche, les préjugés que cette résolution cherchait à prévenir n'ont pas diminué. D'autres détails sur ce communiqué avec vous, Alain Rung.
Selon le communiqué, les États et toutes les parties au conflit armé doivent se conformer aux règles protégeant les soins de santé. L'obligation en vertu du droit international humanitaire de respecter et d'assurer le respect en toutes circonstances exige que les États non seulement respectent eux-mêmes ces règles, mais utilisent aussi toute influence possible pour s'assurer que les autres États et parties en conflit fassent de même. Les recommandations du secrétaire général de l'ONU qui accompagnent la résolution 2286 restent une feuille de route claire et concrète pour les États. Le CICR, l'OMS et MSF sont prêts à soutenir les États dans la mise en œuvre de ces mesures cruciales, leur expertise médicale et leur capacité opérationnelle pour soutenir les États dans la mise en œuvre de ces mesures cruciales. Nous rappelons également la résolution 65.20 de l'Assemblée mondiale de la santé adoptée en 2012 qui a introduit une documentation systématique et un rapport des attaques contre les soins de santé par l'OMS. Renforcer un reporting cohérent et transparent est essentiel pour constituer une base de preuves éclairée, la prévention et la réponse et soutenir la responsabilité, note le communiqué.
Dans la province du Bas-Uélé, 2 enfants âgés respectivement de 14 et 17 ans ont réussi à s'échapper des griffes de la LRA, la rébellion ougandaise de Joseph Kony. Selon la société civile locale, ces 2 rescapés sont arrivés samedi dernier au village Djima, situé à au moins 50 kilomètres de l'autre côté de la frontière avec la République centrafricaine. Ces informations recueillies par Jacques Mokonkole sont rendues ici par Benjamin Moudoumbi.
Tout commence le 4 avril dernier, lorsqu'ils sont kidnappés à Ebale et Kpokpo, des localités du territoire d'Ango. Après avoir passé près d'un mois en captivité, il profite de moments de relâchement pour s'enfuir dans la savane. Selon la société civile locale, il leur aura fallu marcher pendant une semaine en pleine brousse pour finalement atteindre la localité de Djema. En République centrafricaine, c'est samedi 2 mai. Une fois en sécurité, les 2 garçons ont raconté leur calvaire. Ils affirment avoir été enlevés par un groupe de 10 rebelles. Cette mission était dirigée par un certain Yaya, présenté comme l'un des fils de Joseph Kony. Mais leur récit est aussi une alerte. Ils laissent derrière eux 24 autres enfants, toujours au monde des ravisseurs, dont 13 filles. Parmi ces otages, on compte des petits Congolais, mais aussi 10 enfants centrafricains. Si ces 2 jeunes sont aujourd'hui sans sauf, le sort de leurs camarades restés en forêt reste plus jamais incertain. De son côté, l'administrateur du territoire d'Ango attend les rapports de ses services avant de confirmer ou d'infirmer cette information.
À Lubumbashi, un collectif de journalistes a apporté le week-end une assistance humanitaire aux déplacés de guerre venus du Nord et du Sud Kivu. D'après les donateurs, il s'agit des biens collectés en vue de répondre tant soit peu aux cris de détresse de ces déplacés qui vivent dans de mauvaises conditions. Si alors que ces déplacés sont à Lubumbashi depuis plusieurs mois, ils ont déjà sollicité sans succès de l'aide du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le point avec Paula Munanga.
Cette assistance humanitaire est constituée de la farine de maïs, du riz, de l'huile, des habits, des chaussures. Il y a aussi des savons de toilette, des nettoyages et d'autres biens de première nécessité. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame des Pauvres dans la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Patient Lukusa, qui fait partie des journalistes donateurs, a précisé que les cotisations n'ont pas été faites seulement par des journalistes, mais il y a eu aussi d'autres personnes de bonne volonté qui se sont joints à cette action philanthropique. Les représentants des déplacés saluent ces gestes. Paul Biamungu.
Nous les déplacés, nous sommes contents de votre geste de générosité, puisque vous êtes venus nous voir, nous les déplacés de la guerre. Nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas même les récipients pour puiser de l'eau. Ça nous rassure qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi se rassasier. Nos enfants aujourd'hui sont contents. Coup de chapeau à ce collectif de journalistes. Je vois qu'ils sont dynamiques pour aider Ce n'est pas pour médiatiser seulement, mais pour médiatiser aussi avec les gestes.
D'après certaines sources, la ville de Lubumbashi a accueilli plus de 1000 déplacés de guerre venus de la région du Kivu. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président américain annonce le lancement du projet Liberté, une opération visant à sécuriser la circulation maritime dans le golfe Persique. Dès ce lundi, aujourd'hui donc, la marine américaine doit escorter près de 900 navires actuellement bloqués afin de leur permettre de traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité. Mais cette initiative suscite de vives réactions de la part de l'Iran. Téhéran a prévenu qu'il considérerait toute interférence américaine dans la zone comme une violation du cessez-le-feu en vigueur.
L'invité.
Célébration hier 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Congo central, les responsables provinciaux de l'Union nationale de la presse du Congo constatent un afflux préoccupant de moutons noirs dans la profession. Ils affirment avoir déjà engagé plusieurs démarches pour décourager ces pratiques qui ternissent l'image du métier. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Dieudonné Mwaka Dimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo au Congo central. Il répond aux questions d'Élise Kavira.
Monsieur Mwaka Dimbi, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous venons de célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous vous êtes quelquefois exprimé à travers les médias au sujet de la présence des moutons noirs dans la presse du Congo central. Qu'en est-il aujourd'hui?
Pour ce qui concerne la presse au Congo central, moi je pense qu'il n'y a presque pas de problème à déplorer, mais est-il que ce n'est pas seulement dans la ville de Matadiou, dans la province du Congo central où il y a des moutons noirs, c'est un problème général, donc à travers toutes les provinces.
Justement, quelles sont les dispositions prises pour décourager cet afflux des moutons noirs dans la profession?
Ce que nous faisons maintenant, c'est sur base d'une décision de l'INPC fixant les conditions d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. C'est ce que nous sommes en train de divulguer. Nous étions d'abord à Kisantu, Bansangou, Kimpese. Maintenant, il nous reste la série de Boma, Mwanda et Bafleur. Donc, nous sommes en train de vulgariser la décision de l'INPC fixant les modalités d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. Puisque qu'est-ce qu'on a constaté par le passé? Tout le monde s'est présenté comme journaliste et tout le monde, même les chauffeurs, les éditeurs, les journaux, tout ça, ici de suite, étaient détenteurs de la carte de presse. Ainsi que cette fois-ci, nous avions essayé de mettre des garde-fous. Pour être éligible à cette carte, vous devez avoir le niveau universitaire. Et puis, il y a certaines conditions aussi, tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait le journalisme dans les institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État congolais. Ceux qui ont aussi d'autres diplômes qui n'est pas de la filière du journalisme, ceux-là aussi ont quand même droit à cette carte. Même s'ils n'ont pas, mais là, on va jouer maintenant sur l'ancienneté, donc les années qu'ils prestent au niveau de la presse, bien sûr. Mais alors, pour ce qui concerne les communicateurs, puisque la plupart et maintenant au niveau du gouvernement, dans des institutions politiques comme des communicateurs. Ceux-là, les restes journalistes, bien sûr, ne sont pas éligibles à la nouvelle carte de presse jusqu'à ce qu'ils vont quitter les cabinets politiques là où ils ont été affectés. Mais quand ils vont quitter, ils peuvent revenir à l'INPC. Nous allons les recevoir sans problème.
À ce jour, combien de journalistes sont répertoriés dans toute la province du Congo central?
Bon, moi je pense que c'est un peu difficile, puisqu'il y a des chaînes là qui naissent au jour le jour. Ils ne signalent ni au CESAC ni à l'INPC. Maintenant, il y a des gens qui travaillent là-bas comme étant journalistes. Alors c'est ainsi que pour le moment, hein, à l'instant, il nous est difficile. Peut-être quand nous allons effectuer la ronde, puisque ce que nous faisons, la vulgarisation de la décision là, de l'INPC, avec ça, peut-être on saura aussi identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Peut-être ce n'est qu'après qu'on pourrait bien définir le nombre de journalistes que nous avons au niveau de la province.
Peut-on dire que les journalistes de cette province jouissent leur liberté d'expression?
En tout cas, je puis dire oui. Les journalistes sont libres de s'exprimer puisque jusque-là, en dehors du cas d'emprisonnement que nous avions connu, je peux dire, il y avait deux hommes plus une fille là qui sont entrés dans la vie privée d'une autorité de la place, quoi. Aujourd'hui, en étant communicateur du gouverneur, donc au niveau de l'INPC, nous ne les reconnaissons pas.
Avez-vous un message à adresser aux professionnels de la presse du Congo central?
Bon, le message c'est quoi encore, je peux dire? Le journalisme s'exerce en respectant certaines normes. D'où j'invite tous les journalistes à se référer seulement au code d'éthique et de déontologie du journaliste qui constitue notre Bible.
Monsieur Dieudonné Mwakadimbi, Radio Okapi vous remercie.
Merci, merci beaucoup.
Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, Congo central, UNPC. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Hirung et Élisée Chikota Chivuita avec Babène Pongo-Massimango à la présentation, André Mongo à la technique. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente semaine.